C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va entendre le deuxième volet de cette série qu'on entame d'articles. Issu de la revue L'Information Psychiatrique, la revue de janvier 2024, le numéro, pardon, revue du syndicat des psychiatres des hôpitaux, ancien syndicat unique des psychiatres des hôpitaux. Alors, ce numéro porte sur le déficit et les inhibitions et comporte une étude sur une déchronicisation pour un patient longuement suivi sur l'ASM-13, l'Association de santé mentale du 13e arrondissement. Les psychiatres rédacteurs de ces quatre articles ont été praticiens de l'ASM-13. Et aujourd'hui, je vais vous lire l'historique que le docteur Clément Bonnet donne de la réadaptation ou de la réhabilitation psychosociale dans la psychiatrie française et montre par là qu'il y avait vraiment des réticences, il y a vraiment toujours d'ailleurs des réticences à cette démarche de rétablissement en France. Alors, pour plus de précision, Clément Bonnet, donc dans un travail dans son article, établit les généalogies de la réadaptation, de la rééducation et de la réhabilitation en psychiatrie. Il distingue trois grandes périodes, jusqu'à la classification internationale du handicap, donc avant et jusqu'à cette date, la classification dans un manuel en quelque sorte, qui est le CIH, classification internationale du handicap, 1976. La période entre celle-ci et la classification dite du fonctionnement de la santé et du handicap, le CIF, 2001, et la période depuis la création de cette classification CIF. Alors la CIF est davantage une classification de la santé conduisant à la définition de groupes, de minorités, aux droits affirmés par une lutte contre les discriminations obtenant de la société des mesures compensatoires. La réadaptation relève du champ sanitaire. Elle a pour objet le sujet dont il s'agit d'augmenter les capacités d'adaptation grâce à des soins aux objectifs réparateurs et mutatifs. Elle se penche sur la réalité interne du patient et cherche à augmenter sa capacité d'investissement de la réalité. C'est un travail psychique visant à augmenter son autonomie que le patient est invité. Etc. Alors, on entre dans les détails de toute cette affaire avec l'article en lui-même. L'article en lui-même... Clément Bonnet, psychiatre des hôpitaux honoraires. Alors aussi, c'est pas un texte anarchiste, évidemment. Nous sommes sur une radio anarchiste, mais ce n'est pas un texte du tout anarchiste. C'est un texte donc de très très dans conventionnel, quoi. Le fruit d'une recherche qui peut intéresser beaucoup de personnes qui se questionnent sur toute cette problématique du rétablissement, qui ne sont pas forcément dans les institutions. Alors aujourd'hui, écrit Clément Bonnet, la réhabilitation est à la mode et fait de l'ombre à la réadaptation. Pourtant, ces deux mots désignent une réalité très proche, confirmée par l'étymologie qui renvoie à la même notion d'aptitude. Cependant, la réadaptation penche vers le médical, alors que la réhabilitation s'inscrit dès le XVe siècle dans le juridique, avec l'idée du rétablissement des droits et des prérogatives d'une personne déchue. Tout un débat sémantique serait nécessaire pour éclaircir les contours de ces deux notions. Les débats autour de la fondation en 1986 en France de l'Association mondiale pour la réadaptation psychosociale, AMRP, devenue quelques mois plus tard, après traduction en anglais et retour en France, Association mondiale pour la réhabilitation psychosociale, AMRP, toujours, illustre ces aléas. Aujourd'hui, le terme de réhabilitation est de plus en plus adopté par les équipes françaises, alors que les Québécois restent attachés à celui de réadaptation. Rappelons que certains acteurs français se plaignaient d'être les seuls à ne pas utiliser le concept de réhabilitation et souhaitaient s'aligner sur le reste du monde. Si les personnes concernées ne disent pas qu'elles se réadaptent, elles sont encore moins nombreuses à se réhabiliter. Voilà, donc des petits problèmes de sémantique sur ces deux mots. Actuellement, une confusion peut s'établir entre rééducation, réadaptation, réhabilitation dans le vaste champ de l'insertion. Mais quelle réalité désigne ces différents concepts ? Pour qui ces distinctions sont-elles importantes ? Quelles conséquences pour le parcours de la personne souffrant de handicap psychique ? Alors, c'est pareil, hein, ce sont des termes, hein, handicap psychique, que nous n'avons pas nous, l'habitude d'employer, ce sont des termes spécialisés. Je poursuis la lecture. Les racines historiques de la notion de réadaptation. H.J. Sticker nous rappelle que l'idée de réadaptation s'enracine dans la perspective d'éducabilité du XVIIIe siècle, après la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient de Diderot en 1749. Celui-ci soutient en effet qu'un infirme peut accéder à ses compétences, à des compétences égales ou supérieures aux autres, dès lors qu'il dispose des moyens adéquats. On retrouve dans cette ligne Howie, l'abbé de l'épée, J.M. Itard, E. Seguin, et D.M. Bourneville et P. Pinel. Le modèle de la réadaptation comme traitement de l'infirmité s'est imposé plus tardivement au début du XXe avec les invalides de guerre de 14-18 et la prise en compte des accidentés du travail. L'expansion des institutions et des moyens de réadaptation ont suivi la publication des ordonnances de 1945 concernant la sécurité sociale. En somatique, les praticiens de la médecine physique et de la réadaptation, MPR, dont Bourneville a été le précurseur, sont attachés au terme de réadaptation. La spécialité médicale de rééducation fonctionnelle et de réadaptation médicale a été fondée en 1967. Elle a toute sa place dans le discours médical alors même que vient de se créer en 2019, hein, récemment, d'une discipline universitaire, la section des sciences de la rééducation et de la réadaptation. Ces soins sont définis actuellement par l'OMS 2021 comme un ensemble d'interventions conçues pour optimiser le fonctionnement et réduire le handicap des personnes souffrant de problèmes de santé lorsqu'elles interagissent avec leur environnement. Voilà la définition. De soins de réadaptation. Alors, les personnes qui fonctionnent, hein, c'est un peu hard, quoi. Mais c'est comme ça. La réadaptation est centrée sur la personne qu'elle peut aider à éviter une hospitalisation, à raccourcir la durée du séjour à l'hôpital. Ces soins sont organisés dans les services de soins de suite et de réadaptation qui contribuent à la fluidité de après l'hôpital. À travers trois missions, la rééducation d'un organe lésé, la réadaptation du patient pour lui permettre de s'adapter au mieux à ses limitations et le recouvrement maximal des conditions de vie de ce patient. La rééducation veut aider le patient à recouvrer le meilleur potentiel de ses moyens physiques, cognitifs et psychologiques, alors que la réadaptation accompagne le patient dont les limitations de capacité sont irréversibles pour lui permettre de s'adapter au mieux à ses limitations. La réinsertion travaille pour l'autonomie du patient afin qu'il recouvre les conditions de vie qui précédaient l'hospitalisation. SSR recouvre 9 activités spécialisées, dont les conduites addictives en écartant les activités psychiatriques. Cependant, chacun reconnaîtra la grande proximité entre les objectifs d'une réadaptation somatique et psychiatrique. Et nous passons donc en psychiatrie. Dans l'histoire de la psychiatrie française, la conception de la réadaptation a toujours été présente. Rappelons qu'en 1947, lors des Journées nationales des psychiatres français, il était souhaité que le titre d'asile soit remplacé par celui de centre de cure et de réadaptation. Durand a très bien répertorié les précurseurs de la réadaptation, en particulier J.P. Falleret, pionnier de la réadaptation, entre guillemets, Civadon, Le Guillan, Doucinet et le mouvement des Croix Marines. Rappelons aussi que, pour les pères fondateurs de la psychiatrie, Pinel, Esquirol, il y a toujours eu la volonté de restituer le patient à la vie sociale avec les traitements moraux, à tel point que jusqu'en 1875, il y avait autant d'entrants que de sortants dans les asiles. Les soins de réadaptation ont pris leur essor avec la désinstitutionnalisation qui a suivi la mise en œuvre de la politique de secteur, et ils ont fait l'objet d'un chapitre de la conférence de consensus sur la schizophrénie en 1994 avec la définition suivante. La réadaptation peut être définie comme l'ensemble des soins spécifiques s'adressant à des malades pour lesquels, après une période de soins curatifs adéquate, une insertion ou réinsertion sociale et professionnelle suffisante apparaît comme problématique, mais pour lesquels on peut espérer une évolution positive à moyen terme afin qu'ils participent de façon libre, spontanée et responsable à toutes les formes de la vie sociale. Fin de citation. B. Jolivet, qui avait participé à la définition des soins de réadaptation à la conférence de consensus, a pu situer clairement ces soins par rapport aux actions de réhabilitation. Alors que G. Vidon, dans un livre collectif, affirme la place de la réhabilitation en psychiatrie. Du côté des enfants, il faut signaler l'importance de l'ouvrage dirigé par F. Shapiro, qui a beaucoup développé l'approche historique et les clarifications apportées en pédopsychiatrie par les travaux de Wood. On voit que cette période a été traversée par des approches différentes entre ces deux notions de réadaptation, plutôt portées par le mouvement Croix-Marine, et réhabilitation, avancée par la branche française de l'AMRP qui deviendra Réhab. Notons qu'aujourd'hui, ces deux courants se trouvent heureusement réunis dans Santé Mentale France. Ces questions conceptuelles ont également été reprises dans les travaux d'un groupe de travail au ministère de la Santé qui a donné un rapport en 1995, L'évolution des soins en psychiatrie et la réinsertion des malades mentaux, qui est malheureusement resté confidentiel alors qu'il précisait assez clairement les notions essentielles utiles dans l'insertion tout en souhaitant que soient soutenues de nouvelles initiatives émanant entre autres du tissu associatif pour faciliter l'articulation entre sanitaire et social. Mais une certaine résistance, selon l'expression de P. Caco, a toujours freiné le développement des soins de réadaptation, et ce, malgré les travaux de la Société française de recherche sur les soins de réadaptation en psychiatrie, SFRSRP, qui l'animait. Relevons cependant que les textes du 14 mars 1986 et du 14 mars 1990 font toute leur place aux soins de réadaptation. Par exemple, il est précisé en 1990 que les soins de réadaptation permettent une certaine insertion dans le milieu social et un réentraînement à l'autonomie. Fin de citation. C'est après les années 2000 que le terme de réhabilitation apparaît dans les textes officiels. En particulier lié dans le plan 2011-2015, où il est précisé qu'elle assure deux types d'actions. Celles qui ont pour objectif d'aider la personne à acquérir des ressources personnelles grâce à des soins de réadaptation et celles dirigées vers le milieu social. On retrouve là clairement décrit l'objectif des soins de réadaptation qui est dans ce texte englobé dans celui de la réhabilitation. Les pratiques des soins de réadaptation en psychiatrie. Il est important de rappeler quelques aspects pratiques des soins de réadaptation psychosociale, tout en essayant de préciser et situer les résistances à cette pratique. L'adaptation mise en cause. Selon l'Encyclopédie Universalis, l'adaptation est un mécanisme par lequel un individu devient apte à appartenir à un groupe. Si l'adaptation nécessite avant tout des capacités de changement chez l'individu, il est facile de comprendre que le trouble mental qui se traduit avant tout par une angoisse envahissante et l'atteinte de la fonction de relation aura pour conséquence d'entraîner des difficultés d'adaptation aux situations et aux personnes. J.P. Harveyer a précisé ce qu'il en est de l'adaptation en repérant trois axes essentiels. L'adaptation au modèle social, l'adaptation à soi-même et l'adaptation aux structures. Pour cet auteur, l'adaptation est une dialectique, je cite, fruit d'un double travail de l'individu sur la société et de celle-ci sur l'individu, avec une transformation continuelle du couple qu'il forme. Fin de citation. Un projet thérapeutique doit donc tenter de développer les capacités d'adaptabilité des personnes souffrant de désadaptation. Avec les techniques réadaptives, on cherche la limitation ou la disparition des défaillances. C'est bien de ce fait un processus de normalisation. Mais depuis mai 68, avec les discours antipsychiatriques, toute perspective allant vers une meilleure adaptation des patients au milieu de vie ou au milieu professionnel est devenue la caution d'un travail d'aliénation sociale. La psychiatrie étant désignée comme moyen de remise en ordre de la société, support d'une idéologie de normalisation. Il persiste encore une certaine répugnance des acteurs de la psychiatrie, de l'éducatif, du pédagogique, à utiliser cette notion de réadaptation qui, pourtant, présuppose la possibilité d'un investissement nouveau et une prime de plaisir dans les activités entreprises. Les politiques d'inclusion sont maintenant mises en avant en s'appuyant sur des logiques de partenariat et de parcours où l'accompagnement devient une pratique extensive. Il serait cependant naïf de considérer que l'inclusion s'oppose à l'adaptation, car il ne peut y avoir d'inclusion sans les efforts d'adaptation de la personne et de son environnement. Quelle méthode pour ces pratiques soignantes spécifiques? Ces pratiques ont pour objectif précis qui est de traiter les conséquences de la maladie après une stabilisation symptomatique, de permettre à la personne de développer ses capacités pour pouvoir s'adapter au mieux à son environnement. Ce sont des techniques où il est question de faire avec les personnes. Elles permettent de développer les compétences personnelles et de resocialisation quand la personne souhaite elle-même s'adapter à un groupe social. Au-delà, ces soins veulent contribuer à ce que la personne puisse trouver ou retrouver un plaisir de fonctionnement dans ses capacités et ses relations. Ils sont pratiqués en ambulatoire ou dans des unités spécifiques regroupées pour la politique de secteur, dans les alternatives à l'hospitalisation et pour les structures privées. Ils s'affichent sous la bannière de centres de réadaptation. C'est tout un travail psychique qui est mis en jeu et c'est ce qui explique que toute réadaptation en psychiatrie doit être dite réadaptation psychosociale. Pour certains patients, il faudra que l'accompagnement s'oriente au plus proche des fonctions de base, hygiène corporelle, vestimentaire, gestion de la vie quotidienne. Pour d'autres, il faudra travailler sur la dimension relationnelle et cognitive, prise de conscience du schéma corporel, rééducation cognitive, travail sur les relations interpersonnelles. Quel type de pratique de soins de réadaptation psychosociale? Après la Deuxième Guerre mondiale, les pratiques des soins de réadaptation s'organisent selon deux modèles. Le modèle anglo-saxon, centré sur le développement des compétences et des performances dont l'objectif est l'autonomie sociale, qui s'intègre à des pratiques cliniques basées sur les théories cognitivo-comportementales et éducatives. Dans les pays latins, une stratégie inspirée par le courant psychodynamique. Le résultat espéré est explicité par Sivadon. Un double mouvement qui s'accompagne d'une transformation des représentations du monde et d'une transformation de soi-même pour permettre un mode de relation socialement acceptable. Ces deux modèles organisent deux registres d'action dans le champ des soins de réadaptation et ceci peut favoriser des approches exclusives. À certains acteurs d'orientation psychodynamique, on reprochera un excès de subjectivité et une absence d'outils de rationalisation du travail clinique, alors que les tenants de l'approche cognitive et comportementale risqueront de négliger le relationnel et les effets de l'implication du thérapeute. Cependant, il n'est pas rare que des professionnels, ouverts aux approches multiréférentielles, s'engagent dans une pratique où les deux peuvent converger et se rejoindre, comme cela est possible dans beaucoup d'ateliers de médiation, où il est possible d'articuler une lecture à double entrée cognitive ou psychanalytique de la souffrance des patients. Précisons enfin qu'au-delà des positions théoriques, les techniques ne comptent que pour un faible pourcentage dans le processus de changement du patient. Entre en ligne de compte beaucoup plus l'alliance thérapeutique, les caractéristiques psychologiques du patient et du thérapeute, la compréhension du vécu de la personne et ses capacités d'apprentissage de comportements adaptatifs. Il faut ajouter que les soins de réadaptation s'appuient aussi fortement sur les bénéfices des traitements médicamenteux et du travail avec les familles. Approche technologique, TCC. Elles répondent à la mise en œuvre de programmes qui veulent aider le patient à recouvrer le meilleur potentiel de ses moyens cognitifs et psychologiques. Elles consistent à utiliser des techniques de rééducation et d'entraînement de fonctions cognitives et sociales altérées. Ces programmes de rééducation permettent aux participants de prendre confiance en eux et de devenir acteurs dans leur quotidien. Mais certains restent critiques quant au transfert des compétences acquises à la vie quotidienne, tandis que d'autres relèvent combien la motivation est essentielle pour s'engager dans ces exercices d'interaction sociale, en soulignant que tout manque de motivation empêche le patient d'utiliser ses propres ressources et compétences malgré leur existence potentielle. Certains acteurs considèrent que la psychoéducation et la remédiation cognitive constituent les deux principaux piliers dans cette dimension des soins de réadaptation. Des programmes particuliers comme le remède rugby, programme de remédiation écologique, entre guillemets, des troubles de la cognition sociale dans la schizophrénie, ou l'utilisation de jeux vidéo, peuvent être très intéressants. Dans ce type d'activité, il est recherché un caractère familier et moins régressif que certaines autres médiations pour des jeunes adultes. Tous ces outils, entre guillemets, sont effectivement des leviers qui permettent d'engager un processus de soins spécifiques pour permettre aux patients de limiter au mieux ses incapacités. Ceci correspond aux objectifs des soins et des soins de réadaptation à des interventions sanitaires dans le registre de la rééducation et des apprentissages. Ça, c'est la TCC, les approches de techniques comportementalistes et cognitives. Approche relationnelle, psychodynamique. C'est la circulaire du 14 mars 1990 qui précise les objectifs à atteindre pour la politique de santé mentale. Je cite « Chaque secteur ou groupe de deux ou trois secteurs de psychiatrie générale devra disposer, hors enceinte de l'hôpital, d'au moins une structure de soins de réadaptation permettant une certaine insertion dans le milieu social et un réentraînement à l'autonomie, appartement thérapeutique, centre de post-cure, placement familial thérapeutique, atelier thérapeutique, hôpital de jour. » Fin de citation. C'est une facette essentielle des soins de réadaptation psychosociale qui propose d'accompagner le patient dont les capacités sont limitées pour lui permettre de vivre au mieux avec ses difficultés. La dimension relationnelle et collective est prévalente, ce qui n'exclut pas les bénéfices de certains apprentissages qui se développent dans ces actions organisées avec le support théorique des médiations thérapeutiques. La spécificité des soins dans les structures alternatives repose essentiellement sur le recours aux médiations thérapeutiques, soins corporels, ateliers d'expression, ateliers psychopédagogiques, yoga, club, etc. Les loisirs, la culture, le sport, la vie associative peuvent également être le support des soins de réadaptation. Si les activités sont thérapeutiques, c'est parce qu'elles permettent d'aménager un espace relationnel où, comme l'écrit Winnicott, là où le jeu n'est pas possible, le travail de thérapeute vise à amener le patient dans l'état où il est où il n'est pas capable de jouer, dans un état où il n'est pas capable de jouer, à un état où il est capable de le faire. Fin de la citation. Quels espaces spécifiques ? Cette dynamique se retrouve aujourd'hui dans les alternatives à l'hospitalisation décrites dans le texte de mars 86. Ces structures animent des pratiques soignantes diversifiées pour favoriser le développement des potentiels de compétences et les habiletés sociales et professionnelles. Les hôpitaux de jour savent comment organiser la vie institutionnelle et introduire des pratiques soignantes singulières pour accompagner le patient à travers les espaces thérapeutiques groupaux. Les ergothérapeutes y ont toute leur place et l'approche corporelle n'est pas négligée avec les interventions de psychomotriciens ou de kinésithérapeutes qui permettent à la personne de mieux se situer corporellement dans l'espace et par rapport aux autres, jeux sportifs, expression corporelle, mime, danse, yoga, etc. Ces activités s'inscrivent dans une vie institutionnelle qui nourrit une certaine ambiance favorable à ce qui est reconnu comme une visée sociothérapique. Le recours à un dispositif associatif favorisera les échanges dans le collectif et chaque adhérent pourra devenir co-gestionnaire de ce qui est entrepris collectivement. C'est là un bon apprentissage de la vie citoyenne et démocratique. Les ateliers thérapeutiques, bien que très peu nombreux en France, une vingtaine, se centrent beaucoup plus sur la médiation par l'activité travail. On sait que c'est la plus ancienne méthode connue de rééducation et de réadaptation des malades mentaux. On trouve dans l'article de S. Gauthier les grandes lignes d'une approche psychodynamique autour de l'objet travail comme réalité partageable, alors que l'objet soin s'incarne dans le mode de présence des soignants moniteurs. Cet auteur décrit le travail des professionnels qui s'engagent dans un contexte concret et sont attentifs au comment les investissements du patient s'organisent, car le travail est l'axe de l'activité concrète qui s'offre à l'investissement des malades. Fin de citation. À côté des situations de travail se développent dans les ateliers thérapeutiques, comme dans les alternatives à l'hospitalisation, des activités thérapeutiques dans le champ culturel, sportif, du loisir. Les activités d'expression et de création tiennent une grande place avec des interventions d'art-thérapeutes ou d'artistes, tandis que des activités plus manuelles sont aussi proposées, jardinage, bricolage, vie quotidienne, journal. Autour de l'objet travail, citons aussi la clinique de Sceaux qui accueille de jeunes patients de 16 à 25 ans pour leur proposer un programme soins-études. Les jeunes malades peuvent ainsi bénéficier de soins médicaux tout en leur donnant la possibilité de suivre leur scolarité ou leurs études universitaires. Cette clinique utilise les études comme une médiation thérapeutique spécifique. Les foyers de post-cure et les placements familiaux thérapeutiques permettent aussi ces soins de réadaptation avec la médiation des objets de la vie quotidienne. Les foyers de post-cure, dont le premier ouvert en France en 1956, peuvent aussi s'orienter vers la construction de réseaux de partenaires pour faciliter l'accès au logement. Ils proposent une rééducation de la sociabilité, des apprentissages de la vie domestique. Nombre d'entre eux s'articulent avec des appartements à visée thérapeutique ou des chantiers thérapeutiques. La participation est le levier essentiel de ces structures de soins de réadaptation. Pour accentuer ce projet, certains collectifs soignants savent s'appuyer sur le dispositif associatif de la loi de 1901 pour favoriser l'engagement des patients dans un processus où, en devenant adhérents et moteurs de l'association, ils participent à une véritable école de citoyenneté. Les soins de réadaptation que nous venons de décrire s'inscrivent dans une dynamique diachronique. En effet, ils respectent une logique d'évolution des processus dans le temps avec une succession d'étapes dans les objectifs de travail. Ils sont au carrefour du sanitaire et du social et se développent au mieux quand leurs supports institutionnels sont ouverts sur l'extérieur. On peut penser que des soins de réadaptation psychosociale favorables sont ceux qui ont permis aux patients de retrouver ses capacités d'investissement de la réalité et de s'ouvrir à des intérêts extérieurs. Voilà, on va faire une première pause avec quelques mesures de basse, avec donc un peu de basse gag de Priso Aurélien. Avant de poursuivre cet article, on est toujours sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et donc, je voulais faire un petit commentaire, c'est que, oui, là, juste une réflexion. Souvent dans ce contexte de réhabilitation, on ne parle pas de sevrage du médicament ou de faire avec les effets indésirables entre guillemets du neuroleptique. Qui sont souvent pris en compte dans les techniques de rééducation psychologique et cognitive. Donc voilà, c'est un peu le grand absent de cet article, mais qui est par ailleurs fort intéressant et je vous poursuis la lecture si vous le voulez bien. C'est un article de Clément Bonnet, psychiatre des hôpitaux, et un article intitulé « Réhabiliter les soins de réadaptation psychosociale ». Ouais, donc l'auteur, dit que la réhabilitation est à la mode, la réhabilitation, c'est-à-dire travailler le rapport entre l'individu et la société hors institution, après cet épisode de réadaptation, c'est-à-dire dans un domaine médical, la réhabilitation qui est liée au social, eh bien, est beaucoup plus prise en compte que cette partie dont nous venons de parler, qui est la réadaptation. Et maintenant, nous passons justement à une deuxième partie où nous parlons de réhabilitation. Émergence de la notion de réhabilitation. Le manifeste de Réhab de mars 2008 caractérise clairement la réhabilitation. Un ensemble d'actions de soins à l'intention de personnes souffrant de troubles psychiques et un ensemble d'actions en direction de la société afin qu'elle soit plus porteuse et plus apte à l'accueillir. Ceci a le mérite de distinguer les actions de soins qui correspondent aux soins de réadaptation et les actions en direction de la société qui correspondent aux mesures de compensation ou actions de réhabilitation. Dommage que les soins de réadaptation ne soient pas nommés. Voilà. Un levier de la réhabilitation, le dépassement du modèle médical du handicap. L'Organisation mondiale de la santé a adopté la classification internationale des handicaps, CIH, en 1976, après les travaux de P.H. Wood. Elle se présente avec un sous-titre très clair, « Manuel des conséquences des maladies ». Cette CIH, classification internationale des handicaps, offre un cadre conceptuel qui décrit l'expérience des personnes souffrant de troubles chroniques et permet de situer les soins de réadaptation pour traiter des incapacités et les actions de réhabilitation pour répondre aux désavantages sociaux. En 2001, l'OMS reprend les règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des handicapés et adopte une nouvelle classification dite du fonctionnement de la santé et du handicap, CIF. Pour Shapiro, c'est une classification des composantes de la santé plus que des conséquences des maladies qui veut concerner tout un chacun et vise à faire basculer vers l'environnement l'attention portée jusque-là sur la personne. L'état de fonctionnement et de handicap d'une personne souffrant de troubles psychiques devient le résultat de l'interaction dynamique entre son problème de santé et les facteurs contextuels. La CIF repose sur l'intégration d'un modèle médical où le handicap est perçu comme un problème de la personne. Dans un modèle social, le handicap est avant tout un obstacle créé par la société. Ainsi, le handicap n'est pas un attribut de la personne et devient une question politique qui appelle des réponses sociales. C'est cette logique qui efface la prévalence de la dimension médicale, donc des soins de réadaptation, et favorise une conception plus globalisante des modes d'action dans le registre de la réhabilitation. La loi de 2005, inspirée de la CIF, va insister sur les nécessités de compensation à mettre en œuvre avec les recherches de participation et de citoyenneté des personnes concernées, sans parler de déficience ou d'incapacité. La réhabilitation trouve alors toutes ses justifications et efface la place des soins de réadaptation. Ces évolutions de la conception du handicap sont en lien avec les logiques qui animent les actions des consommateurs nord-américains pour qui la libre compétition est le plus sûr garant de la prospérité et de la liberté. C'est ainsi que la loi en faveur des personnes handicapées aux États-Unis demandera le rétablissement de l'égalité des chances dans la libre compétition en luttant contre toutes les formes de discrimination. Elle devient une loi de lutte contre la discrimination, une loi de droit civique et non une loi de protection sociale. Les personnes handicapées sont une des minorités, au même titre par exemple que les Noirs ou les femmes, et doivent s'affirmer empowerment et lutter pour leurs droits civiques. Si on veut résumer les incidences des évolutions conceptuelles sur le handicap, il est possible de dire que la CIH donne toute sa place à la réadaptation psychosociale centrée sur la personne, les facteurs personnels et leurs déterminants. Elle est dans le champ du sanitaire et répond aux incapacités. La réhabilitation, alors, cherche à réduire le handicap résultant de la maladie. Ce modèle de travail, complété par le rétablissement, est particulièrement bien explicité par B. Martin. La CIF, quant à elle, valorise la réhabilitation psychosociale où les déterminants environnementaux sont prévalents. La problématique sociétale est dominante, elle recherche la participation sociale et veut lutter contre l'exclusion et la stigmatisation. Certains outils utilisés dans la réhabilitation psychosociale renvoient à une vision plutôt synchronique. En effet, le recours à des analyses quantitatives issues des réponses à des questionnaires, les auto-observations proposées à partir d'agendas, le relevé de fréquence des comportements, problèmes de leur intensité, de leur durée, introduisent une perspective statique. tout ce qui n'est pas de l'actuel a moins d'importance et les vécus antérieurs sont souvent écartés. La réalité et les événements sont abordés au travers de leurs effets immédiats. C'est le registre de l'ici et maintenant. Les pratiques des actions de réhabilitation. Elles concernent toutes les stratégies sociales, juridiques, culturelles, sportives qui ont une incidence favorable sur la vie au quotidien des personnes en situation de handicap psychique. Elles se regroupent dans les mesures de compensation mises en œuvre par les structures médico-sociales prévues par la loi du 11 février 2005 avec des mesures de déstigmatisation. La compensation est le pendant du volet accessibilité avec différentes aides possibles, humaines, techniques, animalières, de protection juridique. Le levier fondamental de cette compensation, c'est l'accompagnement qui s'inscrit dans un processus censé favoriser le cheminement de la personne vers un accomplissement personnel, vers le rétablissement. Nous ne reprendrons pas les différentes actions de réhabilitation qui favorisent l'accès des personnes en situation de handicap psychique à des ressources financières, à un logement, à une activité professionnelle ou à une pleine citoyenneté. Relevons qu'actuellement, ces actions sont portées essentiellement par le médico-social avec le développement ces dernières années de l'emploi accompagné et du logement accompagné. Pour soutenir une réhabilitation à la française qui, selon G. Vidon, mêle assistance et soins et tiennent compte des difficultés dues au divorce à la française et la coupure et à la coupure entre sanitaire et social, il est nécessaire, selon nous, de distinguer la dimension soignante qui relève du sanitaire et des soins de réadaptation psychosociale et la dimension de compensation d'assistance qui relève des interventions sociales et médico-sociales dans le cadre des actions de réhabilitation psychosociale. On constate dès lors combien il devient nécessaire de clarifier les champs d'intervention et les compétences respectives des intervenants entre prestations de soins et prestations d'aide sociale, tout en sachant qu'il faut reconnaître aux actions d'aide sociale une fonction soignante et aux interventions sanitaires une valence sociale. Pour une réhabilitation des soins de réadaptation psychosociale. Donc là, on en vient au cœur du sujet, défendu par l'auteur. Il semble assez évident que les soins de réadaptation sont nés pour lutter contre les risques de chronicisation liés aux formes les plus asilaires de l'enfermement psychiatrique. Alors là, je fais une petite parenthèse, les formes les plus asilaires de l'enfermement psychiatrique sont majoritaires, toujours actuellement. Hein. Je ferme la parenthèse. Les soins de suite se sont imposés pour favoriser la réinsertion de la personne. Ces soins de suite, après un épisode de décompensation nécessitant hospitalisation, deviennent aujourd'hui de plus en plus nécessaires alors que les temps de soins sont de plus en plus limités. Ceci ne peut pas se confondre avec les actions de réhabilitation qui visent une démédicalisation de l'accompagnement et des aménagements de l'environnement. C'est de logique qu'il est possible de rattacher aux problématiques du « cure » et du « care » sont à la fois différentes et complémentaires dans le champ de la santé mentale. Elles impliquent des conséquences organisationnelles avec des affiliations institutionnelles partagées entre sanitaire et social. Du côté des soins de réadaptation, nous sommes dans le champ sanitaire avec des professionnels aux compétences spécifiques, alors que la réhabilitation se développe dans le champ médico-social et social avec d'autres catégories de professionnels, mais aussi des bénévoles qui auront avant tout le souci de prendre soin, du prendre soin. Si la réhabilitation semble aujourd'hui la plus porteuse du processus qui favorise le rétablissement des personnes, retenons ce terme. Mais ne nous éloignons pas de l'OMS et reconnaissons la phase des soins de réadaptation tout en refusant de parler de soins pour qualifier la réhabilitation. Il faut en effet éviter de confondre le cure et ses objectifs réparateurs et mutatifs avec le care de la réhabilitation et sa fonction de soutien dans la suite du holding de Winnicott. Dès lors, le rôle des missions et les missions des intervenants sont interrogés. Il suffit par exemple de constater que, faute d'atelier thérapeutique sur un secteur, on peut voir se créer un service spécifique à partir d'un ESAT pour entreprendre des actions dites de réadaptation, de formation et d'insertion professionnelle et sociale. Une structure de ce type, relais d'un ESAT, verra ses candidats adressés par les équipes de santé mentale sur un temps limité, sans statut de travailleur handicapé et sans orientation MDPH. Le travail affiché de réadaptation, qui tient plutôt d'un travail d'insertion, est porté par des éducateurs techniques et de rares psychologues. Précisons que pour des personnes en situation de handicap psychique, les ESAT de transition accompagnent vers l'insertion en milieu ordinaire via un temps de transition en milieu protégé, en évitant à juste raison de parler de réadaptation. On peut se demander pourquoi les ateliers thérapeutiques ne devraient pas être la structure de soins de réadaptation adaptée qui permettrait aux patients de retrouver leur potentialité et d'expérimenter dans des entreprises en milieu ordinaire ou protégé leur capacité à s'intégrer avec d'autres travailleurs moyennant un accompagnement thérapeutique. Tout se passe comme si l'accompagnement socio-éducatif pouvait effacer les nécessités de soins de réadaptation psychosociale. La problématique de l'accès au logement pose le même type de questions. En effet, on peut voir, faute de foyers de post-cure, l'implantation de foyers d'hébergement ou de formules de logement accompagnés qui se donnent pour mission la réadaptation de leurs bénéficiaires avec le concours d'intervenants sociaux sans dimension thérapeutique, sans primauté du soin. Plutôt que de réadaptation, il s'agit là aussi, de modalités d'insertion. Mais ainsi s'installent des dérives entre les missions des uns et des autres, où les rôles sont confondus et les parcours des personnes bien complexes à repérer. Tout serait plus clair si on parlait de soins de réadaptation, quand on vise essentiellement une évolution psychique des personnes, alors que l'accompagnement social, éducatif, bénévole, du prendre soin de la réhabilitation, se propose avant tout de favoriser l'inclusion de la personne. Cependant, tout est rendu plus complexe en psychiatrie, car il est bien, parfois bien difficile, de délimiter le champ du cure et du care du fait d'une intrication étroite entre les deux dans le processus évolutif des troubles psychiques. C'est ce qui explique les obstacles pour différencier et spécifier un accompagnement thérapeutique centré sur la souffrance et les symptômes, conduit par des soignants d'un accompagnement social centré sur la résolution des problèmes de la vie quotidienne. D'autant plus qu'un accompagnement thérapeutique aura des incidences sociales et qu'à l'inverse, un accompagnement social pourra avoir des effets thérapeutiques. Voilà, peut-être même des effets négatifs, comment dire, pathogènes si c'est pas bien fait. c'est moi qui fais la parenthèse. Conclusion. Le parcours d'une personne souffrant de troubles psychiques sévères a besoin, plus qu'une autre, de balises claires. Il semble nécessaire de réhabiliter les soins de réadaptation psychosociale dans l'espace sanitaire pour favoriser le développement des capacités de la personne et son ouverture sur le social. Ensuite, si nécessaire, il sera possible de mettre en jeu les actions de réhabilitation pour se rétablir et retrouver sa place dans la société. Il serait étrange de confondre la réalité interne cible des soins de réadaptation et réalité externe pour les actions de réhabilitation. Respectons le processus d'accompagnement des personnes du non-investissement à l'investissement d'une réalité partageable dans le cadre des soins de réadaptation psychosociale avant de proposer une réalité partagée dans des actions de réhabilitation. Valorisons la réadaptation et son versant médical et confions à la réhabilitation le rétablissement des droits et des prérogatives de la personne en situation de handicap psychique. Oui, c'est un petit peu la dénonciation de ce que les patients, entre guillemets, sortis de l'institution, sont se retrouvent livrés à eux-mêmes. Voilà, donc ce que je viens de vous lire, donc c'est le lien d'intérêt. L'auteur déclare ne pas avoir de lien d'intérêt en rapport avec cet article. de Clément Bonnet, psychiatre des hôpitaux honoraires. C'est un article de l'Information psychiatrique, volume 100, numéro 1, janvier 2024. Alors, il y a beaucoup de références donc à ce texte, hein, des références de chercheurs et de praticiens. Allez, Arveiller, Bonnet, Sticker, Gâteau-Mencier, Amonet, Bourneville, Durand, B, Jolivet, Vidon, Chapiro, Constant, Durand, Parère, Caco, Arveiller, Bonnet, Institution et soins de réadaptation, Revue pratique de psychologie de la vie sociale et d'hygiène mentale, Sivadon, thérapie et adaptation, Rocher, Martin, groupe multifamiliaux et soutien des familles, Masson, Franck, actualité de l'hospitalisation de jour, pratique en santé mentale 2021, Arveiller, Bonnet, au travail les activités productives dans le traitement et la vie du malade mental, Gauthier, soins et actions de réadaptation, Diebold, Fenn Donabedian, Kergolotte, Launay, Leguet, Chapiro, Martin, Bonnet, Vidon. Voilà. Voilà pour les références. Nous allons finir avec une. L'émission L'Entonnoir, hein, ça va être fini pour aujourd'hui. Voilà. Ça va être fini pour aujourd'hui et nous vous disons donc à la semaine prochaine. Thank you.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, j'ai réussi à me faire plaisir un grand plaisir même, puisque nous allons écouter du Bakounine et du Kevjaret. Voilà, on commence tout de suite. Bonne journée à tous, bonne écoute.
Qui suis-je ? De Michel Bakounine. Je ne suis ni un savant, ni un philosophe, ni même un écrivain de métier. J'ai écrit très peu dans ma vie et je ne l'ai jamais fait, pour ainsi dire, qu'à mon corps défendant, et seulement lorsqu'une conviction passionnée me forçait à vaincre ma